ce matin, j'aimerais simplement parler d'une chose. L'engagement envers Dieu transforme ma vie et mon entourage. Si tu as compris ça, tu as tout compris. On peut rentrer à la maison. L'engagement envers Dieu transforme ma vie et mon entourage. C'est inévitable. Le monde a terriblement besoin de vivre un changement. Je ne pense pas qu'on a besoin d'arguments pour le comprendre. Il y a tant et tant de souffrances. Les choses vont tellement mal, partout. Et le monde a besoin d'une révolution. Et je crois fermement que la seule réponse à ce problème est spirituelle. Parce qu'on ne force pas les gens à être bons en publiant des lois. La société ne change pas si les cœurs ne changent pas, un à un. Le cœur du problème, c'est les problèmes dans les cœurs. Et nous n'arriverons jamais à nous changer nous-mêmes. Mais je crois qu'une seule personne en est capable. Et je pense que vous savez de qui je vais parler. Jésus-Christ. Jésus-Christ par la puissance de vie qu'il détient. Je crois que c'est le choix de sa personne et l'engagement envers lui qui peut nous changer parce qu'au final, il change et transforme des vies. La Bible a beaucoup à dire sur les questions de choix et d'engagement. Et Jésus pose souvent ces questions. Qui choisissons-nous? Que voulons-nous? À qui ou à quoi nous engageons-nous? Il sait que ce que nous choisissons, ou plutôt celui que nous choisissons, va changer notre vie. Notre choix est vital. Il détermine la direction que nous prenons. Il détermine notre destination. Il donne un sens à notre vie. Il nous rend heureux ou pas du tout heureux. 2 Chroniques chapitre 16, verset 9, nous dit « Car l'Éternel parcourt toute la terre du regard pour soutenir ceux dont le cœur est tourné vers lui. » De quelle manière? Sans partage. Dieu cherche des personnes qu'il pourra utiliser, des personnes qui feront la différence par leur choix et leur engagement, des personnes dont le cœur est tourné vers lui sans partage. Il veut agir dans ta vie, il veut agir dans ma vie. Mais pour cela, il faut que nous nous engagions envers lui totalement. Alors qu'est-ce que cela veut dire d'être totalement engagé envers Christ? Y a-t-il une différence entre être engagé partiellement, à moitié ou totalement? Être froid ou chaud? Bien sûr qu'il y en a une. En fait, si nous sommes engagés totalement envers Christ, il y a 5 aspects à cet engagement. Il faut comprendre que lorsque Dieu nous a créés, il avait prévu que nous fonctionnions de manière totale, optimale, dans notre relation avec lui, notre intimité avec lui. Il avait 5 intentions, 5 volontés qu'il souhaitait que nous vivions. Ceci dit, Dieu ne force personne. Il donne le choix. Si nous ne les vivons pas, nous ratons les raisons pour lesquelles Dieu nous a placés ici sur terre. Nous ne trouverons pas le sens de la vie. Nous ne trouverons pas la vie elle-même si nous ne nous tournons pas vers Dieu. Mais si nous les vivons, notre vie changera. Nous trouverons un sens à notre vie, la satisfaction et son soutien. C'est ce que le texte disait tout à l'heure. Et nous pourrons dire avec le psalmiste, il y a abondance de joie devant ta face, des délices éternels à ta droite. Alors quel est le fondement et les 5 engagements qui vont changer ma vie, qui vont changer ta vie, qui vont changer l'Église et changer le monde autour de nous? Alors commençons déjà par le commencement. Par le fondement, confier ma vie à Christ. Confier ma vie à Jésus-Christ. Alors c'est la question de savoir à qui je donne ma vie et à qui je me consacre. Le plus important, et qui a des répercussions éternelles, et pour qui allez-vous vivre ? Ces questions déterminent votre destination finale. C'est une question vitale. Pour qui vivez-vous vraiment ? De toutes les façons, nous vivons pour quelqu'un, ça c'est sûr. Alors on peut vivre pour l'approbation des autres, vivre pour notre patron, pour notre conjoint, vivre pour nous-mêmes, ou vivre pour Jésus-Christ, qui nous aime tellement qu'il a donné sa vie à la croix. Il préféra mourir que de passer l'éternité sans moi, sans toi, sans nous. Il préféra mourir pour vous donner la vie et vous donner la possibilité d'être réconcilié avec Dieu. C'est pas beau ça ? Cela vous montre à quel point Dieu, en la personne de Jésus-Christ, s'engage à vos côtés. Dieu est un Dieu qui s'engage, un Dieu d'engagement. À la croix, Jésus-Christ s'est engagé envers vous, de tout son cœur, sans réserve et ni partage, comme le disait le texte. Il a tout donné jusqu'au dernier souffle pour effacer vos péchés, pour vous réconcilier avec lui et être sûr que vous vivrez pour l'éternité. Grâce à son sacrifice, il vous offre un contrat en or, le contrat de la nouvelle alliance, un contrat par lequel il s'engage à votre côté de manière inconditionnelle. Voici en quoi consistera l'alliance que je conclurai, dit l'Éternel. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. On trouve cela dans Jérémie chapitre 31, verset 33. Et il dit dans cette alliance ce qu'il fera. Il pardonnera votre péché, il fera en sorte que vous le connaissiez et il vous donnera la capacité de faire le bien. C'est génial. Son engagement à votre côté est total. C'est pour cela qu'il a laissé sa vie. Son engagement est total à nos côtés et la source de notre vie et de notre sécurité et de notre paix quotidienne se trouve en lui. Alors, il y a plusieurs frères qui ont sorti cela et je trouve ça bien dit. Il est associé à 5 cadeaux qui commencent tous par un P. Alors peut-être que certains l'ont déjà entendu. 5 cadeaux qui commencent par un P. Le pardon des péchés. Je vais aller doucement pour ceux qui prennent des notes. Le pardon des péchés. Une place au ciel. Un projet de vie. Des œuvres préparées d'avance. La puissance de vie, pense au Saint-Esprit, la capacité de renoncer au péché et de faire le bien, et la plus grande de ces choses, c'est sa présence. Son engagement envers nous est total, mais il est aussi irrévocable. La vie éternelle ne peut être retirée. Votre relation d'enfant de Dieu ne sera jamais détruite. Votre identité ne peut être retirée une fois enfant, vous le restez à vie et pour l'éternité. La présence du Saint-Esprit vous atteste, et j'ai entendu une personne pas plus tard qu'hier qui me disait que voilà, elle était dans la joie du salut. Le Seigneur nous atteste par son Esprit que nous sommes enfants de Dieu. Jésus a dit, personne ne peut jamais vous arracher des bras de mon Père. Et personne ne peut vous arracher de mes bras. Enfin, personne ne peut vous éloigner, en fait, de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Son engagement, donc, comme je le disais, est total. Mais comment fait-on cela ? Comment est-ce que je fais pour faire confiance à Dieu, pour mettre ma confiance en lui, pour pouvoir vivre toutes ces choses, pour pouvoir vivre une relation avec lui ? Dieu nous a laissé 2 textes simples. 1 Jean chapitre 1, verset 9. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et il nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Et Jean 3, 16, que nous avons entendu tout à l'heure, où Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne meurt pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu dit, si tu veux être sauvé, il te suffit simplement de lui demander pardon pour tes péchés, pour tout le mal que tu as fait, et ensuite de croire en Jésus mort et ressuscité, et de lui donner totalement ta vie. Tu dois accepter de laisser Dieu diriger ta vie. Lorsque vous faites cela, il vous offre, comme je l'avais dit tout à l'heure, le pardon, sa puissance de vie, son projet de vie, une place au ciel et sa présence. La plupart d'entre nous ont déjà fait ce choix, et si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à ne pas remettre à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Pas plus tard que dans cette semaine, deux personnes dans notre église ont pris la décision de rencontrer le Seigneur. Et ça, c'est beau. Et je vous invite vraiment à faire ce pas, vous aussi, si vous n'avez pas encore fait. Il n'y a pas plus grande chose que de donner sa vie à Jésus-Christ. Il vous suffit donc simplement de dire « Pardon pour mes péchés. Pardon, mon Dieu, pour mes péchés. Je t'ouvre maintenant mon cœur. Viens dans ma vie. Je te fais confiance. Je te confie ma vie pour que tu la dirige entièrement. » Donc, il n'y a pas de formule magique. C'est tout simplement demander pardon à Dieu et lui confier votre vie. Croire à ce qu'il a fait à la croix pour que vous puissiez être pardonné. Et lui demander maintenant qu'il dirige votre vie. Confier sa vie à Dieu, c'est le fondement. D'accord ? Une fois que vous l'avez fait, Dieu a prévu 5 engagements indispensables pour continuer à bouleverser votre vie et à vous encourager. Et à bouleverser aussi votre entourage. Le premier est, premièrement, être un adorateur. Alors, je ne vais pas parler de faire quelque chose. Je vais parler d'être. Il faut être. Être un adorateur. La vie avec Dieu, ce n'est pas seulement recevoir le pardon des péchés, avoir une place au ciel, avoir un projet de vie, avoir la puissance de vie et la présence de Dieu. C'est beaucoup plus que cela, même si bien sûr c'est énorme ce que je suis en train de dire. Mais il faut nous mettre en marche avec Dieu. Et c'est quand on se met en marche qu'on peut vivre des choses avec Dieu, que Dieu bouleverse notre vie. Donc Dieu nous invite à cultiver une relation intime avec lui, à l'adorer pour qui il est. Jean chapitre 4, versets 23 et 24. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité, car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Jésus nous dit ici que Dieu veut des adorateurs. Il ne veut pas être adoré. Vous voyez la différence ? Être adoré, c'est, par exemple, être un chrétien du dimanche. Ça veut dire, toute la semaine, on ne l'adore pas, mais le dimanche, ah oui, c'est vrai, il faut que je l'adore. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais l'adorateur, c'est quelqu'un qui est vraiment constamment dans l'adoration et l'admiration de son Dieu. Donc c'est la raison pour laquelle il faut savoir qu'il nous a créés. Dieu nous a créés avec ce désir de l'adorer. L'adoration, c'est faire plaisir à Dieu par notre vie. Ce n'est pas simplement dire des choses par notre bouche, dire à Dieu que nous l'aimons, mais aussi c'est dire à Dieu que nous l'aimons par notre vie, par notre manière de vivre. C'est être conscient à la fois de l'amour de Dieu, mais aussi l'aimer en retour pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il est. Et le met en retour, mais vraiment plus que tout. C'est nous réjouir en lui tout le temps. Ça va peut-être vous paraître bizarre, mais l'adoration, c'est aussi lui faire confiance. Faire confiance à Dieu. Parce que quand on fait confiance, on est en train de dire qu'il est digne de confiance. C'est aussi lui obéir. Parce que quand on lui obéit, on est en train de dire que Dieu est au-dessus de nous et que nous lui devons notre vie. C'est aussi utiliser nos talents. Parce que quand nous utilisons nos talents, c'est comme si nous disions, ben, tout ce que nous savons, c'est toi qui nous l'as donné. Et ce que nous avons, c'est pour ta gloire. L'adoration est le premier but de la vie chrétienne. Nous avons été créés pour adorer. C'est notre plus grande responsabilité, notre plus grand privilège, et elle doit avoir la priorité sur toute chose. Quand on demanda à Jésus quel est le plus grand commandement dans la Bible, Jésus a répondu, l'adoration. Comment il l'a dit ? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Mais c'est bizarre parce que juste après, il dit, quel est celui qui lui est semblable de commandement ? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'adoration inclut ces deux choses. À la fois, j'aime Dieu, mais j'aime aussi les autres. Chaque fois que vous exprimez votre adoration, votre amour pour Dieu, vous adorez. Peu importe que vous soyez seul en famille ou en assemblée, donc comme maintenant, ou avec d'autres croyants, vous êtes en train d'adorer. Une femme samaritaine essaya un jour de discuter à ce propos, à propos du meilleur moment et du lieu, de la façon aussi d'adorer. Et Jésus lui répond que ces choses n'avaient aucune importance quant à l'adoration de Dieu. Ce qui est important pour Dieu, c'est notre cœur. Et Jésus a dit, je le répète, les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Il y a une œuvre de l'esprit. Il faut être enfant de Dieu, mais aussi vérité. L'adoration qui plaît à Dieu dépend de notre connaissance de sa personne qui est contenue dans la parole de Dieu. Soyons ses adorateurs. Alors attention, parce que là, c'est super important de bien comprendre cela. Toutes les autres engagements que je vais citer juste après découlent de celui-ci. Si ça ne découle pas de celui-ci, ce n'est pas l'évangile. Je suis très clair là et très ferme. Ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas la vie avec Dieu, celle que Dieu nous propose, si l'adoration n'est pas la première chose que nous mettons, que nous vivons. Et si les autres choses de la vie chrétienne n'en découlent pas, il y a un problème. Nous devons être avant tout des adorateurs, des personnes touchées par l'amour de Dieu, par sa personne qui ne cesse de nous amener à lui dire merci par notre bouche et aussi par nos actions. Tout ce que nous faisons doit découler de notre reconnaissance envers Dieu qui nous a sauvés, et tout ce que nous faisons doit dépendre de la puissance du Saint-Esprit. Si ces choses ne sont pas dans notre vie, tout ce que nous faisons, c'est comme si nous étions dans une autre religion. Si je veux vivre ce que Dieu a prévu pour moi, je dois consacrer ma vie au Christ, je dois me consacrer à être un adorateur et aussi, deuxièmement, à être un membre actif d'une église locale. Alors, c'est bizarre de dire ça. Être membre d'une église locale, une fois quelqu'un m'avait posé la question, c'est appartenir à une église dans un village, dans une ville, comme par exemple nous, église d'Ozoir. Là, c'est l'église locale, d'accord ? D'Ozoir. Vous n'êtes plus étrangers, on trouve ça dans Éphésiens chapitre 2, verset 19. Vous n'êtes plus des étrangers, des gens venus d'ailleurs, mais vous êtes maintenant concitoyens des membres du peuple de Dieu. Vous appartenez à la famille de Dieu. Notez particulièrement ce qui est dit ici. Vous appartenez à la famille de Dieu. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas cela et ne retiennent que la notion d'enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu, ça va, c'est suffisant. Donc je crois en Jésus-Christ, je suis devenu enfant de Dieu et c'est bon. Mais ce verset dit bien plus que cela. Vous devez vivre ce que vous êtes. Si vous voulez grandir, c'est capital. Vous êtes enfant de Dieu et si vous croyez en Jésus-Christ, alors vivez en tant qu'enfant de Dieu. Il ne faut pas simplement dire « je suis », mais il faut le vivre. Mais ce verset dit encore plus que cela. Il dit que vous faites partie de la famille de Dieu. Alors vivez en tant que membre de la famille de Dieu. Vous voyez ce que je suis en train de dire ? Vivez en tant que membre de la famille de Dieu. Et dans la pratique, cela veut dire quoi ? Cela veut dire vivez votre appartenance à la famille de Dieu. Puisque vous faites partie de la famille de Dieu, vivez cette vie de famille. Vivez cette vie de famille. Vous en faites partie, donc vous devez y prendre part. C'est le sens même de la communion. Et c'est pour cela qu'après le culte, par exemple, il nous arrive d'avoir un repas en commun. Ce n'est pas pour avoir un repas en commun. C'est parce que nous sommes une famille. C'est très différent. Et il faut bien comprendre cela. C'est pour ça que nous avons des groupes de maison. Ce n'est pas parce qu'il faut avoir des groupes de maison. C'est parce que nous sommes une famille et nous devons vivre en tant que famille de Dieu. Est-ce que tu fais partie de la famille de Dieu? Alors vis en tant que membre de cette famille. L'Église, contrairement à ce qui est dit parfois, n'est pas une invention humaine, mais c'est une création de Dieu. C'est Dieu qui a créé l'Église. Vous imaginez ça? Jésus est le premier qui emploie le mot dans Matthieu chapitre 16, verset 18. Il est dit « Je bâtirai mon Église ». C'est sa volonté que l'Église existe, c'est son Église. Et Jésus va jusqu'à s'identifier à son Église. Vous vous rappelez ce que Jésus avait dit à l'apôtre Paul qui persécutait l'Église. Pourquoi persécutes-tu l'Église? Pourquoi me persécutes-tu? C'est incroyable de voir comment Jésus s'identifie à son Église. Donc, quand quelqu'un dit « J'aime Jésus-Christ, mais pas l'Église », il y a un vrai problème là. S'engager envers Christ, c'est aussi s'engager envers la famille de Dieu. Tu ne peux pas t'engager envers Christ sans t'engager envers l'Église. Ce n'est pas possible. Si nous appartenons à Christ, nous sommes membres de sa famille. Nous en faisons partie et Dieu a prévu que nous vivions ce qu'il a fait de nous. Il est vraiment important de vous engager dans une église. Aller d'église en église n'est pas du tout le plan de Dieu. Et un jour, vous devez faire votre choix, être membre d'une église locale. Cela est très important. Donc soyez engagés au sein de votre église. Cela a plusieurs avantages, et je vais les dire maintenant. Cela vous donne une famille spirituelle qui vous soutient et vous encourage. Les gens qui viennent dans l'église puis qui vont dans une autre, ben ils n'ont pas le temps de vivre des relations profondes pour pouvoir être encouragés et être soutenus. Cela aussi procure un endroit où découvrir vos dons pour le ministère et où vous pouvez aussi être une bénédiction pour les autres et aussi recevoir des autres. Cela vous place aussi sous la protection spirituelle des responsables de l'Église. Et cela vous fait grandir spirituellement. Il y a encore plein d'avantages, mais je vais m'arrêter là. Quand vous vous engagez dans une Église, ce n'est pas pour être des spectateurs, mais des acteurs. Ce n'est pas pour chauffer une chaise. Ce n'est pas pour être des consommateurs, mais pour être des contributeurs. Soyons des membres officiels d'une Église et soyons actifs pour la gloire et l'honneur de Dieu et pour le bien de son Église. Troisième chose, être un mini-modèle de Jésus-Christ. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, « Et nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. » Lors de la chute de l'homme dans le péché, l'image de Dieu a été endommagée, déformée, abîmée. Et lors du salut, lorsque Dieu nous a sauvés, elle a été restaurée. Et Dieu nous rend semblables à son Fils. Bien sûr, c'est progressif. Ce n'est pas du jour au lendemain. Un jour, ce sera total, mais pas sur cette terre. Et pour ce faire, il nous fait grandir en perfection, en sainteté, en maturité. Et son objectif final, la restauration parfaite du Christ en nous. Son objectif est d'ailleurs que nous le représentions. Et dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 20, il est dit « Nous faisons donc fonction d'ambassadeur au nom du Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. » Voilà une vérité extrême. Le représentant du Christ n'est pas une personne particulière, un évangéliste, quelqu'un de, tu sais, professionnel, spirituel, quoi. C'est vous, en fait. Le représentant de Christ. Les personnes chrétiennes ont été vues, comme cela dans Actes, chapitre 11, verset 26. Chrétien, qui veut dire petit Christ. Les gens voyaient les disciples comme des petits Christ, des mini-modèles du Christ. Et si Dieu nous le rapporte, cela a son importance. Est-ce que, quand les gens te voient, ils voient Jésus-Christ? Ils voient l'amour que Jésus-Christ a pour eux. Ce n'est pas toujours le cas, certainement. Et nous ne sommes pas parfaits, mais nous devons refléter Jésus-Christ. Alors, pour grandir, comme je l'ai dit un peu, c'est un processus, donc il n'y a pas de raccourci. Et la première chose, c'est que nous devons vivre l'intimité avec Dieu pour pouvoir grandir spirituellement. Nous devons passer du temps avec le Seigneur, contempler Jésus-Christ, l'adorer. C'est un peu ce que j'ai dit avant. La troisième chose, nous devons demander à Dieu de produire en nous ce qu'il exige de nous, car c'est le Saint-Esprit qui peut nous amener à grandir. C'est Dieu en nous qui peut agir et nous transformer. Quatrièmement, nous devons, je l'ai déjà dit, être remplis et dirigés par le Saint-Esprit. Et ensuite, nous devons être encouragés et recevoir l'encouragement des autres dans l'Église. Quatrièmement, être un serviteur. Être un serviteur. Vous savez, Dieu nous a confié des talents et des dons spirituels. Ils sont le pur fruit de sa grâce. Dieu nous les a donnés avec pour objectif que nous les utilisions, non pour un usage privé, mais toujours pour l'édification, le bien du plus grand nombre. On a notre slogan, entre guillemets, de notre Église, grandir pour qui ? Pour le bien des autres. Vous trouvez que les autres ont-elles besoin dans l'Église ? Mettez-vous à servir. Souvent on dit, mais il y a ça, il y a ce besoin, donc il faut que... Mettez-vous à servir. Vous trouvez que l'Église aurait besoin d'être améliorée dans tel ou tel point ? Mettez-vous à servir. À chaque fois que vous utilisez vos dons naturels ou surnaturels pour aider les autres, cela s'appelle un ministère. C'est un service. Et chaque chrétien devrait le comprendre et le vivre. Pierre, chapitre 4, verset 10, « Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier. » Donc on ne peut pas dire qu'on n'a pas reçu. « Qu'il le mette au service des autres, comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. » Chacun, d'après ce texte, a reçu un don. Chacun, d'après ce verset, devrait le mettre au service des autres. Pour Dieu, un chrétien ne se sert pas lui-même. Il sert les autres. Deuxièmement, comment servir ? Eh bien, la meilleure manière de servir, eh bien, c'est d'être prompt à servir. Et une autre manière qui est excellente pour servir, venez dans un groupe de maison. Vous verrez que c'est des bons moments ensemble, en petits groupes, pour se servir les uns les autres, s'encourager les uns les autres. Et le plus petit peut apporter sa pierre à ce groupe. Cinquièmement, être un messager de son amour. J'ai déjà dit plusieurs choses par rapport à 2 Corinthiens 5, versets 19 à 20, qui parlait d'être ambassadeur. Qu'est-ce qu'un ambassadeur ? Quelqu'un qui représente celui qui l'a envoyé et qui apporte ce message. Vous représentez le Christ, vous êtes porteur de ce message. Et soyez-en conscient, soyez conscient de cette responsabilité qui est la vôtre. Et quelle est la meilleure nouvelle que vous n'avez jamais entendue ? La meilleure nouvelle que j'ai jamais entendue est celle-ci, et c'est celle-ci qu'il nous faut proclamer. Quoi que j'ai fait, et certainement j'ai fait beaucoup de choses qui sont graves aux yeux de Dieu, cela peut être complètement pardonné, le pardon des péchés. Deuxièmement, je n'ai pas besoin de gagner ma place au ciel, ni de mériter, ni de faire plein de choses pour mériter le ciel. J'ai une place au ciel par le sacrifice de Jésus-Christ. Troisièmement, je suis libre en Jésus-Christ de faire le bien et de renoncer au mal. J'ai reçu le Saint-Esprit, sa puissance de vie. Quatrièmement, Dieu a un projet bienveillant pour ma vie. Il a un projet pour moi. Et cinquièmement, Jésus est pour moi et avec moi. Il vient à mes côtés par son Saint-Esprit. C'est sa présence. Il n'y a pas plus grande nouvelle que celle-ci. J'aimerais maintenant conclure en disant que le choix et l'engagement que Dieu, les choix et engagements que Dieu place dans nos cœurs sont tirés du grand commandement et du grand ordre de mission. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Vous vous rappelez cela, avant que Jésus parte. Cet ordre est pour nous tous. Et le plus grand commandement, on l'a dit tout à l'heure, aimez Dieu, aimez notre prochain. Vous ne pouvez avoir fait confiance à Dieu pour votre vie, ni lui avoir confié votre vie sans accomplir sa volonté. Quel choix avez-vous à faire ? Pratiquez-vous 1, 2 ou 3, 4 ou la totalité d'entre eux, de ces choses que Dieu a prévues pour vous ? Êtes-vous engagé à 100% pour Dieu ? Quelques hommes totalement engagés ont suffi pour changer et bouleverser leur pays. Dieu cherche des personnes qui pourraient changer l'histoire de ce monde. Il faut le saisir, cela. Dieu cherche des personnes pour bouleverser ce monde. Et ces personnes, c'est vous et moi. Mais pour cela, il faut nous engager. Il vous soutiendra si vous vous engagez. Et il vous transformera, il vous bouleversera. Et il transformera votre entourage. Si vous voulez lui donner votre cœur sans partage, alors là, vous allez voir des choses incroyables se produire dans votre vie. Et une des choses qui va être très pratique maintenant, et c'est très bientôt, ça va être le 7 octobre, dans 2 semaines, nous avons la campagne Crazy Love. Et là, nous voulons prendre le temps ensemble de mieux connaître Dieu pour l'aimer et le servir sans partage. Si tu as des difficultés à ce niveau, sache que dans les groupes de maison, nous prendrons le temps d'en parler, d'en discuter, de prier les uns pour les autres. Ne passe pas à côté de cela. Et je rappelle aussi que pour ceux qui ne sont pas encore dans des groupes de maison, il y a des papiers encore qui sont affichés à l'entrée. Donc vous pouvez inscrire votre nom là où vous pouvez venir avec vos coordonnées. Je rappelle ce que je disais tout à l'heure. Si vous voulez vivre ce que Dieu a prévu pour vous, vous devez consacrer votre vie à Christ, vous devez le laisser bouleverser votre vie et vous devez vous consacrer à être un adorateur, un membre actif d'une église locale, un mini-modèle du Christ, un serviteur et un messager de son amour. Est-ce que ça ne vous rappelle pas quelque chose, ces 5 choses ? Pour ceux qui ont retenu la leçon. C'est la vision de notre église. Adoration, amour fraternel, sainteté, service, évangélisation, donc partage de l'amour de Dieu. Dieu veut ça pour notre église. Mais si nous voulons vivre, il faut nous engager. Et Dieu bouleversera vos vies, l'église, votre famille et votre entourage. Dieu compte sur vous pour vivre cela. On va juste prendre un temps court de silence, mais simplement pour vous répondiez à l'appel de Dieu. Et ensuite, je vais prier. Seigneur, merci pour ta parole et merci pour tout ce que tu as prévu pour nous, ce si beau projet. Seigneur, je te demande que ceux qui n'ont pas fait ce pas avec toi, de te rencontrer, puissent le faire maintenant, aujourd'hui. Et je te demande aussi pour tous ceux qui ont déjà fait ce pas avec toi, mais qui ont besoin de faire ces engagements, de vivre pleinement tout ce que tu veux qu'ils vivent. Seigneur, que chacun vraiment puisse faire ce pas. Seigneur, agis par ton esprit et bouleverse nos vies par Jésus-Christ, par tout ce qu'il a accompli pour nous, par ta personne. Seigneur, révèle-toi à chacun et transforme-nous. Transforme notre entourage, bouleverse nos vies pour que l'Église puisse continuer à croître spirituellement et croître en nombre et pouvoir voir plusieurs conversions, plusieurs personnes qui passent de la mort à la vie, plusieurs personnes qui se font baptiser, plusieurs personnes qui s'engagent envers toi, envers l'Église, qui s'engagent à te servir et à porter ta parole, à chercher à croître spirituellement. Seigneur, que vraiment, tu continues ton œuvre dans chacune de nos vies, dans le cœur de chacun. Père, merci pour tout ce que tu veux faire et pour tout ce que tu vas faire. Sois glorifié et honoré, parce que tu es un Dieu merveilleux, et un Dieu qui nous aime, et un Dieu qui veut changer, transformer nos vies. Amen.